CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous, vous êtes toujours plus nombreux à venir toutes les semaines. Sachez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Group, présent dans plus de 190 bureaux dans le monde, et Arnaud Pasquier, directeur associé de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui, nous recevons Noël Giraud, CEO adjointe de Simplon. Bonjour Noël.
Bonjour.
Alors, vous êtes né en Île-de-France. Pour vous, les chiffres sont une bonne lecture, une lecture pratique pour comprendre. Vous faites 8 ans d'audit externe chez KPMG. En fait, vous pensiez y rester peu de temps et vous êtes resté longtemps.
Oui, absolument. Je pensais y rester classiquement 3 ans. Et puis, le virus, en fait, c'est très, très varié. J'ai fait de l'audit, du conseil, des missions de détection de la fraude, des missions à l'étranger. Donc, en fait, on ne voit pas le temps passer.
Oui, c'est vrai.
C'est exactement
la
ça.
La diversité. Mmh. En 2010, vous entrez chez Lafarge en tant que directeur de contrôle interne. Vous aviez une passion pour le béton.
Ah, c'est exactement ça, une révélation totale pour le ciment. Non, c'est pas tout à fait juste, même si j'y ai pris goût. Globalement, c'est une entreprise qui avait vraiment une très belle réputation à l'époque, notamment sur la partie RH, en fait, d'offrir des parcours de mobilité internationale et des parcours de mobilité interne assez ouverts. Donc je me suis dit que c'était une entreprise dans laquelle je me sentirais bien, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Et la mobilité, du coup, vous y avez goûté, vous avez même vécu un télétravail avant l'heure assez spécial, je crois.
Oui, moi j'ai fait le confinement avant l'heure, donc en fait en 2014, j'ai été amenée à suivre mon mari en Italie, où Lafarge n'avait aucune activité. Et puis j'ai pu négocier avec Lafarge de faire du télétravail, ce qui était à l'époque, aujourd'hui on est habitué, hein,
oui.
Mais à l'époque c'était complètement révolutionnaire. Donc j'avais une Lafarge Room dans mon appartement avec un beau poster derrière, et ça faisait une illusion parfaite, et j'ai passé 2 ans comme ça à faire la navette entre la France, la Suisse et puis Rome.
C'est génial. Alors, j'imagine des visios un peu épiques, parce que 2014, c'est pas 2021, les connexions, l'Italie en plus.
Ouais, c'était un petit peu difficile en fait. Lafarge avait serré les coups et avait investi dans des bons systèmes de vidéoconférence. Mais la problématique principale, c'était la gestion du courant électrique en Italie. Et la nounou qui mettait en même temps le four et la machine à laver, ça faisait exploser les plombs. Et en général, c'est toujours pendant la visio la plus importante de la semaine. Donc il fallait que j'aie un programme de gestion des machines à laver assez précis.
Ça va pas être simple, effectivement. Suite à la fusion avec Holcim, vous avez fait de l'audit interne également ?
Oui, en fait, j'ai contribué à monter l'équipe d'audit interne de la fusion des deux groupes. Mmh. En fait, l'audit interne d'Holcim était basé en Suisse et à Miami et à Singapour. Et puis l'audit de Lafarge était basé en France. Donc il fallait créer une toute nouvelle équipe et puis surtout une vision commune de l'audit. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 1 an. Et l'idée, c'était de monter l'équipe et après de faire un job plus opérationnel.
Et enfin, vous entrez chez Simplon comme DAF au départ, mais aujourd'hui vous êtes CEO adjointe. Alors, qu'est-ce que c'est que Simplon ?
Peut-être, entre-temps, juste avant, à la fin de cette période d'audit interne, j'ai pris un job opérationnel chez Lafarge, sans lequel j'aurais pas été en mesure de prendre le poste que j'ai aujourd'hui, où là j'ai été DAF sur la partie achat d'énergie, qui représente à peu près 30-40% des coûts de production dans l'industrie du ciment. Et ça m'a mis un pied à l'étrier entre une expérience contrôle interne, audit interne, contrôle de gestion qui reste assez éloignée du terrain de mon point de vue, et vers du très opérationnel.
Tout s'explique. Alors, exactement. Qu'est-ce que c'est que Simplon maintenant ?
Alors, Simplon, c'est un peu un ovni. C'est un grand passage entre le grand groupe et la PME. Donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, une entreprise à utilité sociale. Ça reste une entreprise, c'est pas une association, dont le métier, en fait, c'est de sourcer, former et insérer des personnes éloignées de l'emploi vers le numérique. Donc c'est le pari de l'inclusion par le numérique, c'est
une sacré pari, hein.
Exactement, qui a été créé en 2013 sur un peu un pari fou, de dire il y a énormément de demandeurs d'emploi Et il y a énormément de tensions dans les métiers du numérique. Donc le pari, ça a été de créer une pédagogie qui permet d'amener très rapidement sur un format bootcamp à l'américaine, donc très rapidement, très intensif, des personnes éloignées de l'emploi et de les amener vers des entreprises classiques avec des métiers initialement développeurs web. Et puis progressivement, on a élargi les métiers vers la data, la cybersécurité, etc. Mais le pari, c'est vraiment d'amener des personnes qui sont... aujourd'hui, on a plus de 50% des personnes qui ont le bac ou moins du bac et qu'on amène en 6 mois à des niveaux au moins bac plus 2 et qui derrière trouvent des postes dans des grandes entreprises, des ESN, dans des directions informatiques. Donc c'était un pari un peu fou mais qui a marché et ça s'est développé progressivement jusqu'à... On a formé à peu près 13 000 personnes aujourd'hui.
Bravo.
Dont 4 000 à l'international.
Avec beaucoup de femmes, vous arrivez
Oui, en fait, ça c'est un... En fait, on a une ambition de féminiser les métiers du numérique. Et donc, on a à peu près 40% de femmes dans nos promotions. Donc ça veut dire un processus de sourcing, en fait, d'aller chercher les apprenants qui n'auraient jamais... les apprenantes, surtout, qui n'auraient Bien jamais passé la porte et qu'il faut arriver à d'abord à convaincre, ensuite à sélectionner, ensuite à amener dans des formations de longue durée sur du numérique.
Arnaud.
Alors, je crois que vous avez récemment annoncé avoir remporté un contrat conjoint avec l'AFPA pour former justement 4000 conseillers numériques.
Absolument.
Donc, bravo, c'est un beau contrat. Mm-hmm. Quels sont les défis auxquels vous allez devoir faire face dans ce contexte de Covid qui, j'imagine, transforme la formation qui était quelque chose de très présentiel, physique, et même peut-être dans le recrutement des personnes informées. Mm.
Oui, vous avez raison. En fait, c'est un des plus gros défis que le secteur a eu à affronter avec le Covid. C'est le passage de formation en présentiel principalement et en particulier pour nos publics qui sont à la base assez éloignés du numérique et de passer ces formations en mode distanciel. Donc nous, on avait investi assez tôt et en partie grâce à une levée de fonds dans une plateforme pédagogique qui nous a permis de basculer nos formations en distanciel. Mais on pense que le bon modèle, c'est un modèle hybride avec du présentiel et du distanciel, mais en tout cas en termes d'outils, nous on était déjà équipés, on a été live sur cette plateforme dans la version actuelle en avril 2020, donc bien nous en a pris, c'était vraiment le bon moment d'investir. Et donc, clair. C'est un des plus gros défis, c'est vraiment ça, c'est la digitalisation de la formation. Et puis aussi, arriver à un peu à casser les a priori, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les financeurs s'imaginent que comme c'est à distance, c'est moins coûteux. La réalité, en fait, c'est que oui, on a moins de coûts de locaux, mais en fait, il faut énormément d'énergie pour former des publics éloignés de l'emploi et les maintenir et éviter des décrochages quand ils sont à distance. Ils sont très souvent dans des conditions de logement difficiles. Donc il faut un sacré dispositif pour arriver à mener à bout des projets de 6 mois en ayant des personnes principalement à distance.
Et j'avais une deuxième question, c'est, vous avez évoqué il y a quelques minutes l'international. C'est quelque chose qui peut paraître un peu étonnant de la part d'une entreprise de formation qui est souvent locale. Et on sait que la formation en France, c'est un domaine assez particulier, notamment sur le modèle économique. Quels sont aujourd'hui, peut-être à partir d'un pays dans lequel vous visez de vous implanter, les défis auxquels vous vous confrontez ?
Alors, on a ouvert plusieurs filiales. On a ouvert une filiale au Maroc, une filiale au Sénégal, et puis on a monté un projet en Inde. Donc, je dirais que les défis sont assez différents. La partie sur toute l'Afrique, une grande partie des financements de la formation professionnelle sont philanthropiques. Donc ce sont des fondations d'entreprises ou des très grandes organisations internationales qui financent l'éducation en Afrique. Et donc là, la spécificité, c'est qu'il faut avoir des véhicules juridiques qui permettent de capter ces fonds et puis d'opérer des projets. Donc là, on a sur place une fondation, une association. Et puis après, donc très très différent en termes de financement et également différent en termes de public et d'appétence. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir 20 femmes dans une formation, il faut déployer des efforts incroyables pour aller les chercher avec des missions locales, etc. En Afrique, on met une annonce, on a 1000 personnes qui viennent en une semaine. Donc c'est assez,
pas les mêmes enjeux.
C'est assez différent, c'est exactement. Et après, en Inde, c'était également le défi, c'est que beaucoup de ces financements sont des financements de RSE qui nécessitent nécessite également d'avoir des associations locales, sinon on ne peut pas opérer. D'accord. Donc on est obligé de jongler, en fait, pour avoir... Le modèle économique est compliqué, puisque nos formations sont gratuites pour les personnes qui les suivent. Donc on doit jongler entre plusieurs types de financements, et c'est une équation, pour être honnête, qui est assez compliquée à résoudre.
Joli jonglage, j'imagine. Jean-Philippe.
Oui, moi j'ai deux questions, effectivement, des formations gratuites, j'ai bien entendu. Les ressources de Simplon, c'est quoi? C'est du chiffre d'affaires? C'est des subventions? Comment ça
Alors,
fonctionne?
En fait, on a à peu près, à aujourd'hui, et la structure a un petit peu évolué avec le Covid, je dirais qu'on a à peu près la moitié qui provient de subventions publiques. Et un peu privé, et l'autre moitié c'est du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires vis-à-vis de clients qui peuvent être privés ou publics, donc par exemple des régions, mais on a aussi une activité de formation de salariés, parce que nous, pour nous, c'est le numérique pour tous. On n'a pas de ségrégation que demandeurs d'emploi, on croit beaucoup dans la reconversion, donc on a également des clients privés, des grands groupes en fait. On travaille beaucoup avec des grands groupes. Si je peux donner un exemple, la Poste, on reconvertit des postiers pour travailler à la DSI en tant que développeur, donc ça
nous amène
du chiffre d'affaires. Exactement. Mais ça marche très bien.
Jean-Philippe.
Oui, vous avez fait une levée de fonds en 2019. Mmh. Comment ça se passe dans une activité aussi particulière?
Avec bonne
une
question.
Partie, c'est pas simple, j'imagine.
Bah, en fait, on a beaucoup de chance parce que autour de l'économie sociale et solidaire, il y a un certain nombre d'acteurs qui investissent en fait avec le pari qu'on peut faire de l'impact social et être rentable. Et donc, nous avons au capital plusieurs types d'acteurs. Donc, on a Amundi pour la partie épargne salariale qui est fléchée impact. Et donc, dans le portefeuille, ils n'ont que des entreprises à impact. Et c'est extrêmement riche parce que ça nous permet d'avoir énormément de liens avec d'autres entreprises. Et on est très très soutenu par eux. On a la Caisse des dépôts et puis ensuite on a des fonds à impact. Donc vraiment, ils investissent sur du long terme avec ce double pari de la rentabilité et l'impact social.
Noël, le plus beau métier du monde, c'est vétérinaire ou CFO?
Alors vétérinaire, je pense que c'était un rêve d'enfant. Du coup, j'ai pris un chien. Je ne pense pas que ce soit vétérinaire, j'aurais plutôt dit médecin.
Et alors, je crois que vous êtes la spécialiste mondiale du gâteau au yaourt, vous m'avez dit.
Oh mon Dieu.
Là, on veut la recette, forcément.
Mon Dieu, j'en reviens pas d'avoir dit un truc pareil. Mais c'est ma grande spécialité. Ça se fait à peu près en 4 minutes et demie. Et les enfants adorent ça. Donc, c'est mon grand succès. C'est mon gâteau signature.
Bravo. Et enfin, je crois que ça vous tenait à cœur. Et on va en parler. C'est la place des femmes dans le numérique. On en a parlé un petit peu. C'est vraiment une cause importante pour vous.
Oui. Oui, absolument. En fait, c'est vraiment très important qu'on arrive à féminiser ces métiers parce qu'il y a un gros potentiel et en fait, les femmes n'ont pas l'idée se mettent des barrières sur ces métiers alors qu'en fait, ce sont des grands succès. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose que nous et on y arrive progressivement. Mais ce barrage, il est fort et les a priori des entreprises sont assez forts.
Mais c'est curieux parce qu'on en entend beaucoup des gens nous dire ça. Mais il y a quoi? Un manque d'information, de formation, de tout?
Déjà, il y a un manque de candidatures.
Non mais d'accord, mais il faut que ces filles soient au courant que ça existe.
Oui, absolument, mais il y a un manque de candidatures, non pas qu'elles ne savent pas que ça existe, mais elles pensent qu'elles ne peuvent pas y arriver. Donc il y a beaucoup, beaucoup ce levier. Donc nous, on a monté on appelle ça des SAS, qui sont réservés aux femmes. Au départ, on se disait que ce n'est pas possible, mais en fait, on a monté ça parce que le taux après de femmes dans les formations techniques est beaucoup plus élevé quand on a redonné confiance dans ces SAS où elles sont entre elles, elles font des projets entre elles, et très souvent, c'est juste une question de confiance et après, ça passe. Mais sans ça, si on mélange tout de suite, ça ne marche pas.
Avis aux amatrices. Merci beaucoup, Noël. Bien. Vous êtes formidables. Merci également à vous, Jean-Philippe et Arnaud. Fin de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.